17h30, vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Évidemment, toujours un plaisir renouvelé à chaque semaine de parler avec vous de bandes dessinées. Et cette semaine également, on ouvre vers l'animation. Notamment, on aura l'occasion de discuter avec Diane Obomsawin, artiste BD bien connue, artiste qui donne aussi du côté de l'animation et maintenant du côté aussi de l'installation. Avec sa participation à la Manif d'art 6, notamment l'espace 400e chronique en trois mouvements au musée Huron-Wendat Passage. Alors, on aura l'occasion de discuter de ces projets et évidemment de la place, semble-t-il, de plus en plus importante, peut-être on l'espère, de la bande dessinée et de l'animation dans le secteur des arts visuels. Aussi, de passage, Sophie Bédard, auteure de Glorieux Printemps, premier tome, premier de trois d'ailleurs, qui a été lancé récemment du côté de Pow Pow, sympathique chronique de l'adolescence, adaptation d'un blog vers le livre, un très intéressant récit bien senti et plein de maturité pour une autre qui a à peine 20 ans. Alors, on en parle avec elle tout à l'heure. Également, côté chronique, il y aura Olivier Bérard-Vidal qui sera de passage pour nous parler fanzine et autopublication. Cette semaine, on s'intéresse notamment à une parution récente de Mario Mathieu et aussi à une parution récente de Renaud Pilote et Jane Erhardt. Et également, de passage, dans quelques instants, il y aura Stéphane Gravel qui sera avec nous pour nous partager ses commentaires BD. Alors, ça, c'est l'émission de cette semaine. Petite note également au passage, prix des libraires BD de France qui a été rendu public et qui a été décerné à Portugal de Cyril Pedrosa, donc chez Dupuis. Une récompense qui s'ajoute à moult autres, notamment le point de la BD 2011, les prix de la BD de la FNAC au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Bref, plusieurs récompenses pour une BD qui est de tout avis assez intéressante. Il y avait notamment Stéphane Gravel qui nous en avait parlé, je pense qu'il y a de ça quelques temps. Alors ben voilà, si vous n'avez pas encore mis la main dessus, ben une récompense additionnelle qui vous incitera peut-être à le faire. Et on se lance immédiatement en musique, un premier extrait de notre sélection musicale de cette semaine. On est dans le 8-bit avec Cubi. On écoute un extrait de la pièce Damage tirée de leur album Sleet. Et voilà extrait donc de Cubi. Et donc un peu de 8-bit qui nous entraînera au fil de l'émission et qui nous entraîne immédiatement vers la douce voix de Stéphane Gravel qui est au bout du fil. Bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Avec un peu de gêne quand même, Raymond.
C'est des choses qui arrivent. Et Stéphane, en fait, ne restons pas dans la semaine dernière. Il y a ce proverbe, cette locution latine qui dit « carpe diem ». Alors, saisissons l'instant et on reste un peu, j'ai l'impression, cette semaine dans la bande dessinée à saveur rétro.
Oui, je pense que là, j'ai pogné quelque chose avec le rétro. Et puis, les intégrales. Les dingos dossiers de Goscinny et Gottlieb. J'avais oublié ça, moi.
En fait, t'étais pas le seul. Quand j'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça a existé. Mais il me semble que c'était très bon.
C'était très bon et c'est encore très bon parce que c'est très fou. Puis je me suis posé la question, puis je me suis dit, mon Dieu, tu sais, des fois, on se promène, puis on passe dans un quartier, puis c'est le quartier un peu de notre enfance, puis un jour, on se rend compte que on cherche un appartement, puis on loue l'appartement qui est pas loin de où on demeurait quand on était jeune, puis on a l'impression qu'on piétine dans la vie. Je me dis, comment ça, la vie m'a amené encore ici? J'ai trouvé, puis j'avais peur un peu que les dingos dossiers, ça fasse un peu ça. Parce que c'est vraiment un univers, entre guillemets, de secondaire. Pour moi, c'était ma période un peu ado, les dingos dossiers. C'était très à la mode aussi.
Et des fois, on se demande justement si c'est vraiment le produit de tellement ancré dans un contexte précis de notre existence. Est-ce que ça va survivre, dans le fond, à être sorti de ce contexte-là?
Exactement. Et est-ce que je vais avoir l'impression de tomber dans de la redite ou dans une espèce de nostalgie en relisant ça, parce que je veux dire que les dingos dossiers puis les rubriques à braque, là, ça faisait partie du vocabulaire des jeunes, là. Les jeunes parlaient un peu comme Gottlieb, la petite coccinelle qui était dessinée dans le bas des pages, on la retrouvait beaucoup dans les cahiers de classe et sur les coins de bureau, dans mon environnement.
Et là-dessus, d'ailleurs, sur la rubrique à braque, Michel Rabagliati, dans ses pas, a rendu quand même un bel hommage aussi, qui nous rappelle la place pour les amateurs de BD que ces livres-là prenaient dans la création aussi d'une génération de BDistes.
Absolument, et c'est un univers qui est complètement fou, mais c'est tellement intelligent. Ça va tellement plus loin que où je croyais que ça allait aussi.
Et donc, c'est-à-dire, dans ce sens-là, ça passe bien d'un contexte à l'autre de par cette intelligence-là.
Exactement. Autrement dit, j'avais oublié ça. J'avais l'impression que c'était une lecture de jeunesse à laquelle j'aurais pu passer à côté sans aucun problème, mais quand c'est un peu comme si je revoyais un film des Monty Python. Je vois autre chose aujourd'hui. C'est des univers qui ont tellement de dimensions et qui ont tellement de profondeur que ça a une valeur. Donc j'ai eu du plaisir à relire les dingos dossiers. J'ai été étonné de voir comment c'était bien dessiné aussi. J'avais oublié ça. J'avais oublié que le dessin était aussi intéressant. J'avais oublié, je pense que j'avais oublié tout le talent de Gottlieb. Puis, écoute, c'est quand même René Goscinny là qui a fait les scénarios aussi là-dedans. C'est on n'est pas n'importe où là. Gottlieb, Goscinny, c'est quand même deux grands de la bande dessinée. Et puis, ben, c'est tout simplement magnifique là. Je pense que ça a pas vieilli. À part le un petit peu le caractère graphique, là, ça peut venir d'un poil, là.
On fait un peu à l'image de d'autres séries comme ça, qui sont emblématiques, mais qui le sont à cause de la qualité de lecture qu'ils offraient à l'époque, et que finalement, on se rend compte que c'est pas des volumes qui sont ancrés dans une période, mais que si on leur en laisse l'opportunité, c'est des livres qui vont pouvoir nous suivre pratiquement toute notre vie de lecteur.
Mais écoute, on n'en fait pas, je crois qu'on n'en fait pas des intégrales pour rien. Les maisons d'édition sont conscients de la force éditoriale de ces bandes dessinées-là, qu'elles peuvent continuer à vivre ou qu'elles peuvent être au moins rachetées par ceux qui l'aimaient à l'époque. Mais tu sais, quand je lis les dingos dossiers comme ça, j'ai pas l'impression que je suis dans quelque chose de vieux ou que je réécoute les vieux disques de ma jeunesse. J'ai pas eu le goût, en lisant les dingos dossiers, de ressortir mes disques de Genesis. C'est pas nécessaire là. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui, oui, s'adapte, mais s'adapte et ça vieillit bien comme un bon vieux film pourrait bien vieillir.
Et est-ce que tu as d'autres choses cette semaine, d'ailleurs, outre les dingos dossiers, si on reste dans les retours aux sources?
Ouais, Bravo les Brothers de Franquin. Cette BD-là est extraordinaire. C'est une des BD, c'est une des aventures que Franquin choyait, qu'il aimait beaucoup. Ça avait été édité à l'époque à la suite d'un album de Spirou. Je crois que c'était Panade à Champignac. Il y avait une aventure à la fin de 24 ou 26 pages qui était celle des Brothers. pour une fois, on a Spirou, on a Franquin et on a Gaston Lagaffe qui sont dans la même histoire. Et puis, enfin, ben, je pense qu'on donne un peu la juste valeur, si on veut, à cette bande dessinée-là, qui était à fin de compte un côté B d'une autre bande dessinée là. Donc on réédite les éditions Dupuis réédite Bravo les Brothers. C'est sûr que c'est une BD qui ne fait pas un format complet. Elle a comme je disais tantôt 24 ou 26 pages. Mais ensuite il y a un dossier qui est assez volumineux là où on revient sur le contexte, comment ça s'est passé, c'était quoi cette histoire-là, où était Franquin dans son imaginaire créatif, où il en était avec ses personnages, comment il commençait à laisser tomber Spirou et Fantasio, justement, pour donner plus de place à son personnage qui est secondaire, qui était maintenant rendu le personnage, son premier personnage qui est Gaston Lagaffe. Donc, il y a un récit alentour de tout ça qui est extrêmement fascinant et, en plus, à chaque page de droite, on a réédité les pages de les dessins, les croquis, les ancrages de Franquin. C'est-à-dire qu'on a la bande dessinée en noir et blanc, dessinée comme par Franquin à l'époque. Mmh. Et là, on découvre tout le talent de l'auteur. Il y a un trait qui est magnifique, c'est un dessin qui est... C'est hallucinant.
Oui, et j'irais même plus loin. J'ai l'impression, et tu faisais référence à Gaston notamment, mais il y a un génie dans la composition des cases, dans la dynamique des cases, dans la création de mouvements, de situations. C'est ahurissant, là, quand
on regarde ça. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un dessin qui est extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a une réflexion aussi extraordinaire sur la vie. Et je trouve ça... Gaston est un personnage qui est complètement mésadapté, mais qui est tellement contemporain dans son approche aujourd'hui, son approche écologique, son approche d'être dans le moment présent, de prendre le temps de vivre, d'essayer de créer des inventions pour se simplifier la vie. Écoute, on était quand même à la fin des années 60. Là, je trouve que c'est des thèmes qui restent. Puis son dessin, lui, c'est vrai que son dessin ne vieillit pas du tout parce qu'on le copie encore, Franquin, dans la bande dessinée grand public là, chez Dupuis. Il y a encore des auteurs qui sont fortement inspirés. C'est une école, là, Franquin.
Oui, au-delà des reprises de ses séries, là, évidemment. Hein, c'est...
Ça n'a même pas l'air... Bravo les Brothers, là, ça n'a même pas l'air d'une reprise. C'est pas compliqué. C'est comme si cette BD-là était sortie aujourd'hui, puis on la lisait. C'est sublime, c'est beau. Puis c'est vrai que le fait qu'elle avait été éditée en deuxième partie de Palais de la Champignac, c'est une histoire qu'on a oubliée. Là, c'est l'histoire où Gaston arrive avec le trio de singes dans le bureau de chez Dupuis, là. Et puis ils vont faire le beau temps et le mauvais temps, et ça crée des situations qui sont complètement folles. Ça devient un cirque, ce bureau-là, et c'est extrêmement intéressant. C'est une beauté, ce livre-là. Je sais pas s'il y en a beaucoup en librairie, je sais pas s'ils vont en avoir des torts, mais chose certaine, c'est que ceux qui sont amateurs de Franquin, là, on peut pas se permettre de passer à côté d'un album comme ça.
Alors ben voilà, deux suggestions à saveur nostalgique, mais qui demeurent extrêmement actuelles pour différentes raisons qu'on vient de vous présenter. Donc Dingo Dossier et Bravo les Brothers. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Mais c'est juste que je suis pas capable d'aller dans le futur, c'est pour ça.
Bon, ça va, on t'aime comme ça.
Ouais.
On se dit à très bientôt.
À bientôt, bye.
Salut bien. Toujours à la vie en BD, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. On vient d'entendre un petit extrait de la pièce Mellow de Kubi. Et on passe maintenant à l'univers de la BD, de l'animation, mais dans la sphère des arts visuels. Il y a Diane Obomsawin qui est présente à la Manif d'Art 3 à travers une série de projections du côté du musée Huron-Wendat Passage et également à travers une installation vidéo chronique en trois mouvements qui est à l'espace 400e. Les deux sont présentés jusqu'au 3 juin prochain et on a le plaisir de l'avoir avec nous au bout du fil. Diane Obomsawin, bonjour.
Oui, bonjour.
Et c'est un renouvellement, j'ai l'impression, de vos participations dans la sphère des arts visuels. L'été dernier, il y avait eu le symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, maintenant la Manif d'art 6. Qu'est-ce qui amène un peu, est-ce que c'est parce que les arts visuels ont de plus en plus un intérêt peut-être pour l'animation, pour la BD?
Oui, peut-être, ça se peut que ce soit une ouverture, en fait. Ce sont, pour la première fois, c'était le commissaire, comment il s'appelle?
Stéphane Saint-Laurent, je pense.
Oui, c'est ça, qui voulait introduire la bande dessinée et le tatou aussi à Baie-Saint-Paul, dans le cadre de l'art contemporain. Donc, c'était vraiment volontaire de sa part. Mais par rapport à la Manif d'art, c'est plutôt mon amitié avec Nicole Gingras, qui connaît mon travail depuis longtemps. Et à chaque année, elle m'invite au Festival des films sur l'art à présenter un film. Donc c'est plus mon amitié avec elle dans ce contexte-ci.
Qui vous a amené
à... Qui m'a amené là.
Mais on ne s'en plaindra pas, évidemment. Là,
ça, non, pas du tout. Non, moi, pour moi, c'est très agréable, cette ouverture.
Et peut-être éventuellement vers d'autres artistes aussi qui font un peu comme vous, des pratiques métissées, mais toujours à travers le langage graphique, l'animation, de la BD. J'ai l'impression que de voir des artistes comme vous dans des événements comme ça, ça ajoute des lettres de noblesse à votre médium de base, à vos médiums de base, dans le fond.
Oui, en tous les cas, je sais pas... Je ne sais pas ce que ça fait à mon médium de base, mais c'est une expérience très agréable pour moi, parce que ça me fait rencontrer d'autres mondes, d'autres façons de penser, mais je me rends compte qu'en même temps, à la base, c'est être artiste, en fait, qui est peut-être le moteur principal, ou poète même si c'est un terme un peu large, mais moi, je me sentirais... facilement, j'aurais plaisir à dire que je suis poète dans la bande dessinée, dans les arts visuels, dans le film d'animation.
Oui, en fait, j'ai l'impression en même temps, même quand qu'on observe autant le travail que vous avez offert à la Manif d'art, autant d'autres éléments que vous avez fait, il y a un côté low-tech, un côté enfantin, mais il y a une force poétique dans votre travail qui est très imposante, qui est très importante aussi à travers ça.
Oui, moi je pense que ce serait plutôt... ce serait plutôt ça, ce qu'il y a dans mon cœur, en fait, ce que j'ai envie d'exprimer, je peux le transposer facilement dans la bande dessinée ou dans une installation. Par contre, c'est sûr que il y a une autre façon de faire, mais ça part de la même du même cœur, du même noyau. Par exemple, la seule chose, c'est que ça ouvre l'imagination, en fait. À chaque fois qu'on arrive dans un autre médium, ça ouvre l'imagination.
Exactement, on parle de la même base, mais faut adapter un peu son approche, sa manière de penser l'organisation,
oui,
dans le fond.
Oui. Est-ce que ça m'a fait ça au symposium? J'étais très surprise, d'être à l'intérieur d'une installation. Généralement, je suis comme devant soit un album de bande dessinée, soit un film en salle, ou soit devant ma télé ou devant mon ordinateur. Là, j'étais comme complètement immergée par l'installation. Puis j'ai comme un peu perdu l'équilibre la première fois à cause du mouvement. Puis ça m'a donné le goût de jouer un peu plus avec ça, avec la sensation que j'ai eue la première fois de perdre d'équilibre. D'exagérer même peut-être une projection sur le mur, sur le plancher, avec une animation qui bouge, et puis enfin je sais pas, parce que c'est juste des projets là, mais ça me titille l'imagination, c'est ce que ça a fait.
En fait, c'est à la Manif, c'est une première installation vidéo, mais dans le fond ça peut pas être une dernière.
Non, ben non, ça. Vraiment pas, parce que non, vraiment pas. C'est justement parce que ça l'a ouvert. Cette fameuse imagination-là, ça a marché.
Et la thématique que Nicole Gingras a choisie pour la manif d'Arcis, c'est la machine.
Oui.
Et encore là, en fait, vos machines, je reviendrai peut-être avec le terme poétique qu'on avait utilisé tout à l'heure, c'est un peu des machines poétiques que vous nous proposez.
Oui, c'est sans le vouloir, mais c'est des petites machines assez simples. Mais par exemple, il y a une fleur, en fait, c'est des fausses machines. C'est la nature, il y a une fleur qui est géante. Mm-hmm. En fait, elle paraît géante parce que le personnage est très petit à la base de la fleur. Il y a une clé qui est très grande pour le personnage qui l'active. Puis, en activant cette fleur, la fleur s'épanouit. Puis, le jour se lève. Puis, en réactivant la clé, le jour se couche et la fleur se referme. Mais en faisant ça, j'avais l'impression que la fleur était très conciliante, qu'en fait, elle n'avait pas besoin de machine. Mais qu'elle voulait bien faire plaisir à la personne qui l'activait, qui pensait que c'était grâce à lui que la fleur s'ouvre et se ferme. En fait,
un peu l'idée qu'on en fait la façon que je le recevais, vous me direz ce que vous en pensez.
Oui.
On aime bien dans le fond nous humains se donner l'impression qu'on a du contrôle un peu sur tout, mais la
oui.
nature, qu'on soit là ou pas, elle va faire ses choses quand même.
C'est ça, c'est un peu ça. Puis le petit oiseau, c'est un peu ça aussi, qui vole de toute manière, mais c'est comme on dirait, ce serait comme des personnages qui ont un très bon tempérament. C'est une bonne machine. Par contre, le puits de pétrole fait penser à un film qui s'appelle There Will Be Blood.
Mm-hmm.
C'est l'espèce de la pétrolière, la machine à pétrole. Puis une amie me faisait remarquer que c'était comme une machine archaïque et vieille et un peu désuète pour le travail important qu'elle fait, dans le sens que ça mène le monde un peu, le pétrole, puis c'est comme une vieille machine avec un fonctionnement immuable qui date depuis des années. Je sais pas trop ce qu'il y a en arrière de cette machine-là. Je l'ai mis sur Saturne, en plus ça fait pas grand-chose, puis c'est comme un diapason qui est...
Et ça passe à la musique, après avoir percé ces puits, on a de la musique mécanique
qui apparaît. Oui, c'est ça, il n'y a plus rien à percer, ça a été remplacé par un diapason.
Et toutes ces trois mouvements-là de cette chronique, est-ce qu'on les place en dialogue? Est-ce qu'on voit là peut-être un processus narratif d'une case à l'autre, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment plus un parcours émotif et on axe beaucoup plus justement sur l'émotion des gens qui vont venir observer ça?
Ah oui, ça c'est beaucoup plus émotif et ça c'est beaucoup plus sur les sens, le mouvement et les sens. Par exemple... Pour la fleur, je m'ennuyais, j'avais une nostalgie du papier qui bouge avec la pellicule quand je faisais de l'animation avec du papier, que je le filmais sous une caméra en 16 mm. Forcément, la pellicule enregistrait, absorbait les grains du papier. Puis à 12 papiers, à 24 papiers, ou à 12 papiers pour. À 24 papiers secondes, on va dire,
mm-hmm.
ça faisait bouger le grain du papier. Là, je m'ennuyais de ça, donc je l'ai refait artificiellement, mais en scannant un petit morceau de papier, des papiers qu'on a à côté du téléphone pour prendre des notes.
Oui, oui.
J'ai réalisé que j'avais comme fait des empreintes avec un stylo en dessous du papier, donc c'est un peu ça. Agrandi, on retrouve le grain du papier. Puis espèce de mouvement, en fait c'est juste le plaisir du mouvement créé par quelque chose de très petit.
Et parallèlement, de l'autre côté, on a le mouvement de l'oiseau dont on parlait, mais
oui.
qui est entrecoupé aussi par des pluies d'images, par des séries d'images.
J'aime ça que vous dites pluie, c'est parce que c'est ça le sentiment que je voulais faire. Il n'y a pas de sens, en fait, à part qu'il y a peut-être un retour à l'enfance, mais ça je m'en étais pas vraiment rendu compte. Ces livres, je les ai trouvés dans un marché aux puces. J'étais comme attirée, un peu comme à cause des couleurs. Et puis, je les ai juste scannés, mais en sachant que ça allait faire une vibration, une pluie, comme vous dites, une pluie d'images, surtout avec l'encyclopédie, un vieil encyclopédie des années 30 avec des images enfantines qui bougent un peu comme une pluie, justement. Mais il n'y a pas un sens, il n'y a pas de sens.
Et il faut pas en chercher non plus, comme on disait, c'est l'émotion, c'est le ressenti quand on regarde les trois morceaux qui sont réunis par une trame sonore similaire.
Oui, oui, puis j'ai eu plaisir à faire la trame. Puis la trame, c'est low-tech aussi, avec GarageBand. J'ai enregistré avec un iPad, j'ai downloadé le GarageBand, qui coûte 4$. Puis j'ai enregistré des vieux jouets, surtout des jouets. Et ensuite... j'ai mis sur une track de GarageBand. Je me le suis renvoyé sur mon ordi où j'ai Final Cut Pro. Puis là, j'ai fait mon montage. Mais c'est vraiment low-tech, ça aussi.
Et même dans les cadrages proposés, ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez présent aussi dans vos cases, dans certains de vos films, où c'est des plans fixes. On a l'impression qu'il y a une certaine théâtralité un peu dans la manière dont vous organisez vos cases. Et par rapport au film ou au livre, on a une certaine distance par rapport à ça. Mais avec l'installation, là, il y a un côté plus immersif à cette théâtralité-là.
Ah, c'est intéressant, oui. Oui, c'est drôle, parce que c'est vrai que c'est très théâtral, parce que... les films d'animation en particulier, probablement la bande dessinée, mais je m'en rends moins compte, mais les films d'animation, parce que j'ai réalisé que j'aimais pas faire des gros plans, parce que mes personnages sont très simples, alors les gros plans, ça donnerait pas grand chose de voir deux gros points à la place des yeux, puis il y aurait pas de l'émotion du visage, où il y a rien à aller chercher en gros plan, alors je reste un peu théâtrale, jusqu'à même penser que je fais plus du théâtre d'animation que du film d'animation. Puis là, avec l'installation, ben ça, c'est effectivement un grand plaisir de pouvoir être dans un espace un peu plus tridimensionnel, parce que tout ce que je fais d'habitude, on est assis devant, mais c'est encore plus loin que certains films d'animation, parce qu'il n'y a pas de gros plans.
Et donc ça, c'est ce qu'on peut découvrir, donc Chronique en trois mouvements à l'espace 400e.
Oui.
J'aimerais ça qu'on prenne peut-être une petite minute simplement pour rappeler le film. Évidemment, on peut le voir sur le site de l'ONF. On peut aussi le voir avec d'autres films au musée Rouen-Wendat. C'est ces passages, une chronique autobiographique que vous aviez proposée donc il y a quelques années.
Oui.
C'est un peu sur... On reste dans le thème de l'enfance, j'ai l'impression,
oui,
un peu avec ça.
Malgré moi, en fait, ça sort tout seul, ça, ce thème-là. J'ai l'impression que je dois y retourner, peut-être, parce que c'est une enfance marquante. Beaucoup de choses s'est passé dans mon enfance. Ben, comme 14 écoles différentes, par exemple, où... Là, j'ai 53 ans, mais je sais pas pourquoi je suis toujours... attiré par pas par nostalgie, mais je sais pas, peut-être c'est par je sais pas, je sais pas quoi vous dire.
Mais ça nous a construit, j'ai l'impression, donc c'est des souvenirs constructeurs qu'on porte longtemps, qu'on porte toujours, presque.
Oui, puis je pense que en faisant ça, ben je rejoins les enfants, mais aussi les adultes, peut-être, qui ont leur côté enfant. Mais les enfants, certainement, je les rejoins. C'est un plaisir à chaque fois quand un enfant aime ce que je fais. Par contre, je le fais pas pour les enfants dans un sens pédagogique, là. Mais généralement, ça leur plaît bien.
Oui, en fait, quelque chose dans le trait. Il y a une simplicité, peut-être, dans la manière dont vous choisissez de présenter les choses qui fait que c'est accessible autant à l'enfant à nous qu'à l'enfant physique.
Oui, absolument. Même des bandes dessinées, parfois, je me censure pas. Le dernier, c'est Pink Mimi Drink. Mais pourtant, il y a un cauchemar là-dedans que j'aurais pas pensé le montrer à un enfant. Puis j'ai rencontré un enfant... pour qui c'est son album, un de ses albums préférés. Puis c'était assez touchant, il était tout corné, tu sais, comme l'enfant, il l'a porté partout, la page couverture était était toute, il y avait du vécu, quoi, puis il l'avait apporté en voyage, enfin, tous les corps s'étaient retrouvés en voyage, puis il y avait sa petite pile dans cette bande dessinée-là, ça m'avait beaucoup touché.
Ben, en fait, donc voilà, en fait, d'autres contextes de découverte aussi, s'ouvrir oui. un peu à cet univers-là. Je rappelle, en fait, jusqu'au 3 juin, que ce soit à l'espace 400e au musée Huron-Wendat. Diane Obom-Sawin, merci beaucoup.
Oui, merci.
Et au plaisir.
Au plaisir.
Et nous, on prend une courte pause. Au retour, glorieux printemps, Sophie Bédard.
Explosion imminent. Evacuate the facility immediately.
Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel.
Today's security code is 5334118.
Mezzanine, seulement au 89.1.
La balade des gens heureux.
Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade des gens heureux.
J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL,
c'est la meilleure au monde.
Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL,
coule bien en bouche.
Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime
des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons.
Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière La CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 503e avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, La CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi.
Québec. CKRL.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Vous êtes à l'antenne de La Vie en BD au 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On vous rappelle, vous pouvez nous suivre notamment via Facebook, La Vie en BD-CKRL 89.1. Également, on a deux blogs, blog de l'émission à proprement parler, donc lavieenbd.wordpress.com et également un blog sur voir.ca, donc -Raymond trait d'union Poirier. Alors voilà pour l'univers virtuel. Maintenant, parlons de l'univers livresque, édition Pawpaw qui nous ont offert ce printemps deux nouveaux volume. On vous a parlé il y a quelques temps de Motel Galactique 2 et maintenant on s'intéresse au tome 1 de Glorieux Printemps. C'est un livre de Sophie Bédard. Elle est avec nous. Madame Bédard, bonjour.
Bonjour.
Alors avec Glorieux Printemps, tu nous entraînes en fait vers la quatrième, la cinquième secondaire, vers l'univers de l'adolescence.
Oui, c'est ça exactement, la quatrième secondaire.
Donc c'est un peu des chroniques, c'était au départ en fait destiné à être un feuilleton sur un blog.
Oui, c'est ça. Ben ça l'est toujours. Ça continue à être publié sur l'internet. Puis c'est ça, c'est des chapitres qui sont publiés. J'essaie de faire ça une fois par mois, une quinzaine de pages qui sont publiées sur le blog.
Et c'est vraiment, en fait, on est dans des chroniques, à savoir un peu, soit anecdotiques, mais vraiment de construction de personnages, j'ai l'impression. En fait, on les suit au quotidien ou presque. C'est un peu comme ça que c'est structuré.
Oui, ben c'est ça. C'est surtout centré sur les personnages en tant que tel, plutôt que sur qu'est-ce qui leur arrive. C'est vraiment leur personnalité puis comment ils évoluent au jour le jour.
Oui, parce qu'au départ, en fait, dans les premières pages, c'est un peu des personnages typés. En fait, on les reconnaît un peu en tant que stéréotypes d'une certaine façon. Et à la fin du livre, ben c'est complètement autre chose. Là. C'est des personnes tridimensionnelles à part entière ou presque. Là.
Ah ben, c'est le fun.
En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est vraiment, c'est le cœur vraiment de votre récit, c'est la construction justement de ces gens-là.
Oui, mais c'est ça. C'était vraiment c'est vraiment les personnages qui m'intéressent le plus quand j'écris des histoires plutôt que l'histoire. En tout cas, pour l'instant, c'est sur quoi je me centre.
Et est-ce qu'on se fait un plan de match quand même assez précis justement sur l'évolution ou on y va de manière un peu plus instinctive dans la construction du récit?
Ben mes personnages, je les connais, je veux dire, je les ai construits depuis longtemps dans ma tête, donc je sais comment qu'ils vont évoluer, mais en même temps, il y a une grande part d'improvisation là-dedans. Je me laisse beaucoup de lousse. Je sais à peu près comment l'histoire va terminer, mais entre qu'est-ce qui se passe au début puis qu'est-ce qui se passe à la fin, je me laisse du champ pour changer d'idée ou improviser un peu.
Oui, puis voir aussi de quelle manière ça va les affecter, de quelle manière ça va les amener à changer aussi pour que justement leur évolution soit le plus cohérente possible.
Oui, exactement.
Ce qui est quand même un bon défi. Je, personnellement, je me dis que c'est pas évident. Là.
Non, mais c'est je m'amuse en faisant ça.
Et d'ailleurs, en fait, j'ai lu et entendu que c'est un peu l'un de vos projets d'année sabbatique, avec gros guillemets, parce que je pense dans l'année sabbatique, il y a Glorieux Printemps, il y a eu deux albums aussi chez Colosse, il y a eu un blog avec Zviane aussi, Sti qu'on n'est pas ben, je crois. Donc c'est une année sabbatique assez remplie, consacrée à la bande dessinée.
Oui, ben en fait, quand je parlais d'une année sabbatique, je voulais dire que c'était une année où j'allais pas étudier, tout simplement. Puis, ben là, c'est rendu que faire de la bande dessinée, c'est rendu mon occupation principale. Donc, c'est plus vraiment une année sabbatique. De toute façon, elle est en train de se terminer.
et notamment avec Glorieux Printemps, parce que tu l'as mentionné, en fait, le blog, lui, continue. Les parutions vont venir au niveau papier. Mais donc, le blog, c'était un peu un défi que tu t'étais donné au départ de proposer ce feuilleton-là pendant un an?
Oui, mais c'était supposé être plus qu'un an, en fait. C'était vraiment le blog qui devait suivre l'histoire du début à la fin. Je voulais me prouver d'une certaine façon que j'étais capable de faire vivre ces personnages jusqu'au but que je m'étais donné de les faire vivre, donc jusqu'à l'idée que j'avais de leur fin, de leur aboutissement. Donc, ce blog-là va suivre ces personnages-là jusqu'à la fin.
Et donc, ça représente quoi, à peu près une quinzaine de pages par mois côté rédaction? Ou?
Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Là, ça va peut-être en faire plus parce que maintenant, c'est vraiment rendu qu'est-ce que je fais à temps plein. Donc, ça va être plus que 15 pages par mois. En tout cas, je vais essayer de me donner ça comme objectif.
Et comment est venu, parce qu'on le disait, au départ, c'était le blog, et je pense qu'au départ, c'était pas pensé non plus pour devenir un livre.
Non, c'est ça. J'avais peut-être une idée de faire publier en fanzine, mais je voulais vraiment... C'était un peu un laboratoire, le blog. Je veux dire, je savais pas comment ça allait, de quoi ça aurait l'air en livre, donc c'était pas... C'était pas mon idée principale. Le but, c'était pas un livre, au départ.
Et c'est Luc Bossé, de Pau-Pau, qui t'a convaincu de passer d'un médium à l'autre, d'intégrer l'autre médium?
Oui, ben c'est ça. J'avais envie de travailler avec Luc, puis ce projet-là lui plaisait bien. Donc, on a travaillé ensemble pour l'adapter un peu pour que ça convienne au médium du livre.
Et de quelle manière, justement, ça s'est passé, cette adaptation-là? Qu'est-ce qu'on a adapté?
Il y a quelques passages qui ont été changés. Par exemple, il y a un chapitre qui a été complètement ôté parce qu'il suivait pas la continuité du récit. C'était vraiment au début quand j'essayais de présenter des personnages, puis là ça marchait pas, donc on a révisé ça, puis j'ai ajouté quelques pages aussi pour que ça se lise mieux. Quand c'est séparé en chapitres sur le web, c'est comme plus facile de suivre les coupures. Mais quand c'est dans un livre, que c'est tout en continuité, c'est pas nécessairement la même chose quand on lit de A à Z tout de suite plutôt que 15 pages par mois. Donc, il a fallu faire quelques ajustements.
Pour que ça reste souple, pour que ça suive bien, dans le fond, la structure album, au bout du compte.
Oui, c'est ça.
Et parallèlement, quand on revient aussi sur un album sur lequel on a travaillé un temps avant dans le blog, est-ce que des fois on a envie de retravailler le dessin, de retravailler le trait?
Oui, ben c'est ça. Il y a quelques dessins qui ont été refaits. Il y a quelques passages qui ont été redessinés. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a des différences par rapport au blog puis au livre.
Et parallèlement, la thématique, celle de l'adolescent, en fond, on se retrouve au secondaire avec Glorieux Printemps. Je pense qu'il y a aussi comme des grands qui traitent de l'adolescence. C'est une thématique qui vous accroche?
Oui, ben je veux dire, je sors de l'adolescence, ça fait vraiment pas longtemps, donc c'est sûr que quand j'ai des histoires à raconter, ça va toujours tourner un peu autour de ce sujet-là pour l'instant, en tout cas.
Donc, un petit côté vécu ou simplement fait la proximité de l'expérience qui fait que tu as envie de te lancer là-dedans?
Un peu des deux. Ben, pas dans le côté vécu pour comme les grands, mais Glorieux Printemps, c'est sûr qu'il y a une part de mon secondaire qui se retrouve dans ce récit-là, même si c'est pas un récit autobiographique.
Non, ça, à un moment donné, on s'inspire d'anecdotes qui sont passées, qu'on a vécues, qu'on a vues, etc.
Oui, c'est sûr.
Et parallèlement, Glorieux Printemps, côté dessin, avec les autres aussi, avec une année aussi chargée, est-ce que tu as l'impression d'avoir beaucoup évolué, progressé au niveau du trait, au niveau du travail? Je veux dire, une année intensive comme ça doit porter ses fruits, si on peut dire.
Oui, ben, je veux dire, si je regarde les dessins que j'ai faits pour le premier fanzine que j'ai publié comme Les Grands, il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Au niveau du dessin, je considère que j'ai bien évolué, oui.
Et surtout,
j'espère évoluer encore.
Et surtout quand on regarde, il y a une section sur ton site Old Shit ou Old Shit, en fait, où disons là, on voit la genèse de Sophie Bédard, inspirée un peu du trait manga, puis on voit avec Glorieux Printemps notamment, et encore là, tu t'es beaucoup permis d'explorer, de progresser là-dedans. Là.
Ouais, c'est sûr. Vieille Shit, c'est comme des choses que j'ai faites quand j'avais 15 ans, puis c'est plus une blague, ce blog-là, mais c'est sûr qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis.
Exactement, en fait, c'est de voir un peu l'évolution de nos dessinateurs, de nos BDistes.
Ouais.
Et Glorieux Printemps, donc on peut aller évidemment sur le blog si on peut plus attendre la suite, mais sinon, côté publication papier, est-ce qu'il y a déjà pas mal un calendrier serré de prêt pour les... Parce que je disais tout à l'heure en intro, trois tomes, donc j'imagine ça c'est déjà pas mal dans les cartons?
Ouais, ben c'est sûr que là, je suis en train de me presser à essayer de faire le tome 2. Je suis juste au début, donc je sais pas exactement quand ça va sortir. On va peut-être essayer de le faire sortir en automne. Puis, c'est sûr, le tome 3 va suivre pas longtemps après. J'aimerais ça, je sais pas, essayer de clore ce projet-là le plus vite possible, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à raconter.
Oui, en fait, c'est d'essayer de trier entre un et l'autre, puis en dessinant de manière efficace aussi, j'imagine, là-dedans.
Oui.
Est-ce qu'on affine beaucoup le trait ou au contraire, est-ce qu'on y va un peu plus directement? Ou?
On affine le trait. Les premières pages que j'ai dessinées pour le tome 2 sont un peu plus, comment je pourrais dire, raffinées que le tome 1. Je veux dire, j'essaie de m'appliquer, j'essaie de faire évoluer mon dessin en même temps au fil du tome aussi.
Alors, le lecteur va continuer de voir la progression donc de livre en livre et de page de blog en page de blog.
Oui.
Et donc, tome 1, en terminant, Sophie, si on se laissait un peu le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne, qu'on garde en tête peut-être en route vers le tome 2 de ce premier tome de Glorieux Printemps?
Mon Dieu... Comme les thèmes, par exemple?
Oui, on fait le mot de la fin. Je laisse le mot de la fin.
Mon Dieu. Ben, que c'est une histoire d'adolescent qui s'amuse tout simplement. Là, c'est une histoire simple.
Alors, ben, à découvrir Glorieux Printemps. Sophie Bédard, merci beaucoup.
Mais de rien.
Au plaisir.
Au revoir.
Voilà, donc Sophie Bédard et Glorieux Printemps, comme je le disais, c'est disponible depuis déjà quelques temps aux éditions Pow Pow. Et si on veut voir la version web de ce projet-là, ben c'est possible aussi de le faire sur glorieuxprintemps.wordpress.com. Et voilà un dernier extrait de QB avec l'album Sleet. Ça, c'était Planet Tree. Toujours ici sur les ondes du 89.1. Et dernier segment de la vie en BD pour cette semaine. On a le plaisir de retrouver nos collaborateurs. Olivier Bérard-Vidal, bonjour.
Bonjour.
Sam Murdoch, bonjour.
Salut Raymond. Bon vendredi.
Bon vendredi à vous deux. Et on replonge ensemble donc dans l'univers du fanzine, dans l'univers de l'autopublication. Il faut dire qu'il y a eu un beau foisonnement, notamment. Ben, Olivier était derrière l'espace autopublication. On l'avait mentionné au Festival de la bande dessinée de Québec. Il y a eu le Salon Nouveau Genre aussi la semaine dernière. Une occasion de faire pas mal, j'imagine, de découvertes et d'aller voir ce qui se fait, notamment à Québec et ailleurs. Là.
Voilà.
Et t'en as retenu trois pour cette semaine. On va se lancer avec un premier, Mario Mathieu.
Ouais, Mario Mathieu, c'est pour moi une découverte. Il vient au salon au Salon Nouveau Genre depuis deux ou trois éditions. Il fait de la bande dessinée depuis. Ce qu'il me dit, c'est qu'il dessine depuis que 5 ans. Il a fait de la bande dessinée pour un journal dans son coin sur la rive sud, puis. Depuis quelques années, il écrit et dessine la bande dessinée Paranoid Man, dont il a fait quatre ou cinq numéros.
Il y en a 8 de prévus.
C'est ce qui est beau avec Mario, c'est qu'il est comme il ramasse des idées depuis genre 1988.
C'est ça, on sait pas exactement quel âge a Mario, je vais pas trop m'avancer à la radio, là, peut-être qu'il y a 41. Donc 41 ans, c'est drôle parce que souvent on parle de quelqu'un puis sans voir l'œuvre, on peut pas comprendre toute l'ampleur ou sans rencontrer la personne. Souvent, ce qui arrive, c'est que on a déjà parlé ici de Carl Vézina, on a déjà parlé. Mm-hmm. Puis souvent, c'est non seulement des auteurs, des dessinateurs, mais c'est tout le temps des personnages. C'est des gens. Puis on parle du Salon Nouveau Genre, c'est comme un retour sur le Salon Nouveau Genre un peu. Mais quand tu rencontres la personne, Mario Mathieu, monde à part, bande dessinée à part.
Des exemples de titres de bande dessinée de Mario Mathieu: Les beaux hommes des cavernes, Dévora la plante carnivore, Touriste tout risque, Kong le King, le docteur sans façon, les hauts et les bas de la médecine. C'est une des choses qui me charme beaucoup avec Mario, c'est cette espèce de candeur, comme d'humour, comme un peu off, mais quand même drôle, mais comme fait de façon un peu, je dirais pas brouillonne, mais un peu spontanée, pas trop. Moi, je suis ben jaloux comme de sa façon et de dessiner et de sa de son style et de sa façon d'écrire qui est, on dirait pas que c'est comme quelque chose que quelqu'un de 40 ans ferait. C'est ça qui est fascinant.
Sans âge un peu,
mais ça ressemble un peu à un truc des idées un peu de bande dessinée comme de secondaire peut-être ou cégep, ouais. Ou tu sais, quelque chose de plus jeune. Moi, ça me fait penser au début, début Crow.
Et donc, un côté dessin, c'est un peu gribouillé.
Il dessine très très bien, c'est ça. Okay. Il dessine très très bien, comme un dessinateur de bande dessinée comme traditionnel. Ces sortes de blagues, puis son humour qui est comme plus adolescent, ce qui me touche beaucoup. Puis évidemment, comme disait Sam, quand on rencontre Mario, puis on dirait qu'on a un peu de difficulté comme à faire le lien entre ce qu'il fait puis la personne, ce qui est juste comme fascinant.
Mais ça rajoute, en fait, ça rajoute au contenu, ça rajoute au livre, ça donne une couleur additionnelle dans le fond à ce qu'on...
Puis l'espèce de côté off, souvent on fait les salons de fanzines, c'est souvent il y a une espèce de côté cool. Souvent c'est des jeunes qui sont dans la vingtaine, début trentaine, qui font de la création, qui sont dans un espace de création, qui sont sur Facebook et tout. Tu sais, le gars, il est pas sur Facebook, il est pas sur les réseaux sociaux, il fait de la bande dessinée chez eux, puis il assiste au salon avec sa femme qui est là.
Puis il est super optimiste, puis toujours content, toujours enchanté d'être là sur place, de parler de ce qu'il fait. C'est juste comme un modèle.
Puis pour le Salon Nouveau Genre, cette semaine, il avait décoré sa table. Moi, j'ai acheté ici des coquerelles. Il a fait des coquerelles et des petits dinosaures qui accompagnaient la table. Donc c'est super naïf et enfantin, mais c'est parfait. Puis les fanzines, ce qui est magnifique, c'est que il les vend 1$. Donc pour son petit recueil de bande dessinée, et il fait des couvertures rigides lui-même à la main dans une espèce d'étau qui s'est construit dans son sous-sol, et les couvertures rigides sont 2,50$.
Tu vois que c'est comme c'est un idéaliste là, c'est ça.
Il fait ça vraiment pour le plaisir.
Il fait ça parce qu'il a envie de faire ça.
Ouais,
c'est ce qui est beau, parce que c'est vrai qu'a priori on dirait c'est comme des jeunes qui font des fanzines comme parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils voulaient faire. Lui, il a envie de faire ça, il le fait. Puis tu sais, c'est comme, il le fait sérieusement. C'est comme,
Oui, ben ça renvoie un peu à ce qu'on disait, je pense, dans la première chronique. Le fanzine peut être un médium à part entière. C'est pas nécessairement obligé d'être un médium qui mène à d'autres types de publications. Ouais, ça peut être une finalité, là.
Ouais. C'est pas mal, ça.
Alors ça, c'est pour Mario. Mathieu, il n'est pas sur Facebook ou sur Twitter. Mais donc, on peut le chercher, le retrouver.
Sur MySpace.
Sur MySpace.
Il s'est fait un MySpace de bande dessinée, donc il est un peu difficile à naviguer. Là, tu vois, il peut cliquer un peu partout. Mais donc, non. Avoir le MySpace de Mario Mathieu, on comprend tout de suite le.
Puis sinon, si vous voulez pas aller sur MySpace, ben il y a à l'imaginaire, chez Phylactère, puis à Première Issue, où on peut trouver ses bandes dessinées.
Alors ça, c'est pour Mario Mathieu. Et on passe maintenant, en fait, il y a Renaud Pilote et Jen Erhardt qui ont lancé tout récemment, je pense, un premier fanzine.
Ils ont fait déjà quelques fanzines dans le passé. Ils ont sorti un nouveau fanzine qui s'appelle L'amour du baseball, qui est composé de textes de Renaud et de dessins de Jane.
Et Renaud, on peut faire une petite parenthèse, en fait, ses textes, pour sa plume, il a écrit longtemps, il écrit, je pense, toujours dans le droit de parole, oui. C'est Renaudry, notamment.
C'est ça, notamment, on va en parler dans quelques secondes. Moi, je connais pas le baseball, puis j'ai trouvé ça super fascinant de lire comme pourquoi le baseball est fascinant pour Renaud. Qu'est-ce qu'il voit là-dedans? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est des très, très courts textes. Puis, j'aurais voulu en lire encore des dizaines et des dizaines de pages. Comme, c'était juste vraiment drôle, puis ou touchant, ou super, comme, intéressant, là, à lire.
Puis en plus, ben, les deux, une complicité, il y a Renaud et Jane qui se fréquentent, je pense, en tant qu'amoureux, en plus. Fait qu'il y a une espèce de complicité, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, j'ai rencontré souvent Renaud Pilote. C'est drôle parce qu'il fait de la poésie, il fait de la slam poésie, il fait des textes, mais c'est un passionné de sport. Parce qu'il aime les statistiques. Puis j'ai toujours été jaloux. Lui, il lit le journal, puis il comprend tous les sports, il connaît toutes les statistiques, il peut parler de hockey sans arrêt. Puis on pense pas à premier abord que Renaud Pilote est fan de.
On s'attendrait pas
de
à
baseball.
Ça.
Non, pas du tout. Puis là, c'est drôle de le mettre Jane Erhardt, Renaud Pilote.
Non, allez-y.
J'allais dire ça. Effectivement, Renaud écrivait dans le droit de parole. C'est une chronique dans chaque numéro. Puis il a regroupé récemment beaucoup de ces chroniques-là dans un livre qu'a publié lui-même qui s'appelle Les Renauderies. Je pense qu'on peut trouver. Je sais pas, il en a fait combien d'exemplaires, tu sais, plusieurs dizaines, mais s'il est presque épuisé, il va sûrement faire une deuxième édition. Il était même lui-même surpris que ça soit comme aussi populaire. Ce qu'il écrit me touche beaucoup parce qu'il parle beaucoup de choses banales et comme du quotidien et d'affaires ordinaires. Parmi les sujets dont il parle, ben, l'autobus, les guichets automatiques, le banc de parc, la buanderie, le dépanneur, c'est toutes des choses qui me touchent beaucoup. Il y a une façon de parler de choses ordinaires, comme puis de, je sais pas exactement comment dire, comme d'avoir un point de vue inédit sur des choses sur lesquelles la plupart des gens s'attardent pas ou ne voit même plus, disons.
Mm-hmm. Autant, en fait, donc de renouveler un peu le regard qu'on a sur ces choses-là aussi, de facto. Là.
Ben, c'est intéressant de voir comme lui, son regard, puis en même temps, des fois, comme des choses dans lesquelles on se retrouve, des fois des choses qui sont surprenantes, c'est une super lecture que je recommande. Renaud travaille chez Bugel sur Crémadie, fait que je pense qu'on peut trouver les Renauderies là-bas. Je sais pas s'il y a d'autres points de vente, mais on...
Enfin, on peut pas passer là-bas par le principal intéressé.
On pourrait faire ça. Voilà.
Ouais, voilà. Tout simplement. Et en même temps, c'est peut-être, je vois Sam qui parcourt là-dedans, peut-être une phrase ou deux, soit de l'amour du baseball ou soit des Renauderies, simplement pour nous mettre en tête le style d'écriture de l'homme.
Vas-y, choisis.
On va commencer. Ça va être, je vais choisir, puis ça va être la voix, mais j'aime la voix, la cabine téléphonique.
On peut faire ça.
Par Olivier Béravidal, qui lit Renaud Pilote.
Parallèlement au fait que de plus en plus de gens parlent à leur cellulaire, je me plais de plus en plus souvent à me réfugier dans une cabine téléphonique pour m'y taire et vraiment décrocher. Simulant l'utilisation, je prends le combiné, mets mon coude sur le clenche pour entraver la tonalité et y reste pendant des heures. Me croirez-vous, le silence qui y règne est d'une surprenante qualité. Je m'amène une tisane, des mots fléchés et des pantoufles en fantex. Si le cœur m'en dit, je chante, je gueule, je me lamente, j'extériorise. D'autres fois, j'écoute mon corps, me palpe, m'ausculte, me dorlote. Bref, tel que lu dans une revue de cabinet, je prends du temps pour moi.
Alors ça donne l'idée de ce qu'on disait justement au niveau voilà. de la réinterprétation de certains lieux, de certains endroits. Et donc ça, donc on le disait pour les Renaudry, donc c'est plutôt auprès de Renaud lui-même.
Je pense. Oui.
Et pour l'amour du baseball.
Je ne le sais pas. Peut-être chez Phylactère éventuellement. Comme ils viennent juste de le publier, oui, c'est peut-être pas encore diffusé à
grande échelle. Ben, à grande échelle étant relatif.
Hein? Ouais, à moyenne échelle.
Et peut-être un petit dernier, enfin on a une minute et demie qui nous reste, oui. Je sais pas si tu aurais une dernière mention.
Oui, ben moi j'ai découvert lors de l'espace auto-édition la bière du Malte de Dominique Rouleau. J'ai aucune idée c'est qui Dominique, on s'est juste parlé par courriel, j'ai aucune idée de l'âge qu'il a. Moi quand j'ai vu sa bande dessinée, ça m'a tout de suite interpellé. Je sais pas exactement pourquoi. Il y a comme une façon super naïve de dessiner qui est un peu comme quand on est enfant ou adolescent quand on dessine, mais je sais pas vraiment quel âge Dominique a. Couplé à ça, il y a comme dans sa façon aussi de construire comme son histoire. C'est comme l'histoire genre d'un enseignant de 27 ans qui aime boire de la bière et entremêlé d'une conspiration que j'ai pas encore fini de comprendre.
Alors ça, c'est l'ordre du...
C'est la bière du Malte de Dominique Rouleau.
Alors, à voir, à découvrir. Eh bien, Olivier Bérard-Vidal, Sam Murdoch, merci beaucoup à vous deux.
Merci à toi.
Et on se dit à la prochaine.
Merci.
À une prochaine édition. Et nous, c'est ainsi qu'on termine donc cette édition de La Vie en BD. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Il y aura notamment Philippe Girard qui sera avec nous pour parler de La Mauvaise Fille et Michael pour discuter de Circus. Alors ben voilà, c'était Raymond Paré au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Passez un excellent week-end sur les ondes du 89.1 CKRL. Et dans quelques instants, Jean-Sébastien Grondin vous accompagne avec 100% Dynamite.